Tumulte, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Dans une dizaine de minutes et comme chaque troisième tumulte de chaque mois, Sylvie Neve nous proposera son poème provisoire et puis ensuite ce sera le tumulte musical. C'est le contenu de ce tumulte numéro 1014. Jean au micro, salut.
Qu'est-ce autre chose que la vie des sens, qu'un mouvement alternatif qui va de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit, de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit. Ah, je m'en fous. Ta gueule, laisse-moi finir. Toujours incertain entre l'ardeur qui se ralentit, l'ardeur qui se ralentit et l'ardeur qui se renouvelle. Ah, je m'en fous. Mais dans ce mouvement perpétuel de l'appétit au dégoût, de l'appétit au dégoût et du dégoût à l'appétit, on ne laisse pas de se divertir par l'image d'une liberté errante. Tu sais qui c'est. Bravo. Ah, t'es dégueulasse, dégueulasse. Fusion de sang. Tu vois, et c'est même pas la mienne. On ne peut pas discuter avec toi. Tu prends tout à la blague. Ah, erreur. Erreur, justement.
Un poison violent. C'est ça
l'amour. MCK, tu verras.
Violent,
tu me rendras raison.
Un poison violent, c'est ça.
va. Allez, salut.
Un poison violent, c'est ça l'amour, extrait de l'hommage à Serge Gainsbourg du label Tzadik. Le chant, on avait Esther Balint, guitare Marc Ribot et puis à la batterie Roberto Rodriguez. Natacha Atlas, extrait de l'album Anahina, et juste après, ce sera le poème provisoire de Sylvie Neve. Thank you.
حبيبي حياتي انت لعمري انت وعيوني انت ما انت حبيبي حياتي انت لعمري انت وعيوني انت ما انت حبيبي.
Le poème provisoire de Sylvie Neve. Troisième tumulte du mois de novembre.
D'octobre.
D'octobre. Salut Sylvie.
Bonjour tumulte.
Alors un poème provisoire ce mois-ci un peu spécial qui va annoncer en fait ce que l'on va pouvoir entendre dans les poèmes provisoires de cette nouvelle saison.
Oui, c'est la mise en route du feuilleton Barbe Bleue, donc vous n'allez pas encore ouïr les cris de l'épouse de Barbe Bleue, mais en tout cas, je vais répondre aux questions serrées de tumulte qui s'interrogent beaucoup sur cette réécriture.
Alors, le principe du poème provisoire, les auditeurs de Tumulte le connaissent bien maintenant, c'est en fait une certaine manière donner à entendre un travail en cours de réalisation.
Le journal d'un atelier, hein, on pourrait dire ça, on pourrait dire le journal, sauf que ça n'est pas au jour le jour, mais voilà, un atelier en cours, un atelier d'écriture qui se donne à entendre et avec ses... éprouver aussi la langue poétique au moment où elle se, où je la fais sortir de la bouche et où je la donne à entendre.
Alors donc pour cette prochaine saison, donc l'écriture de Barbe Bleue. Alors Barbe Bleue fait suite à deux autres poèmes que tu appelles poèmes expansés, qui étaient consacrés à des contes de Charles Perrault. Donc le premier c'était Le Petit Pousset. Le second, Peau d'âne.
Oui. Hein,
et on a entendu des extraits, de larges extraits de ces deux travaux.
Mm-hmm.
Et puis le troisième, donc c'est une trilogie.
Oui.
Donc il n'y aura pas de quatrième, je suppose.
Non, il n'y aura pas de quatrième.
Toujours consacré à un conte de Charles Perrault, cette fois-ci, Barbe Bleue. Alors d'abord, le principe du poème expansé, qu'est-ce que c'est? C'est une réécriture contemporaine?
Oui. Ça n'est pas que ça. En tout cas, ça n'est pas une réécriture totalement libre. Il y avait un exercice littéraire au XVIIe, je crois, qui était une glose lyrique. Je crois que ça s'appelait comme ça. Et donc, il s'agissait de relire un auteur et de réécrire en le glosant, mais en le glosant d'une manière lyrique, un passage d'un auteur célèbre, latin ou pas. Et alors bon, moi je ne me suis pas inspirée de cet exercice du XVIIe. Hein. J'ai été invitée il y a une vingtaine d'années à une grosse manifestation autour de Rimbaud, à la cité, enfin ce qui est devenu la cité de la musique, enfin à la Villette, hein, la Villette plus exactement. Et donc c'était une nuit d'hommage à Rimbaud. Et j'ai souhaité réécrire Le Dormeur du Val. Le Dormeur du Val est un sonnet, donc c'est un objet littéraire court, évidemment très ramassé. C'est pas un conte. Donc j'ai lu énormément. D'abord, j'ai commencé par lire énormément sur ce poème-là de Rimbaud, sur Rimbaud évidemment plus largement. Et ce travail d'écriture, je l'ai mené syllabe par syllabe, on peut dire. Cette réécriture s'est faite syllabe par syllabe du Dormeur du Val. Et donc, c'est de ce travail-là qu'est née l'idée du poème expansé. C'est-à-dire que de cette forme très ramassée du sonnet ou Rimbaud, livre exprime hein, quelque chose de comme une liqueur, comme quelque chose là de. J'ai fait l'inverse en le réécrivant syllabe après syllabe. Moi, j'ai comme écarté les mots pour y faire entendre à la fois ce que la lecture contemporaine des théoriciens rabaldiens m'avait fait apercevoir, mais aussi ce que j'y apercevais moi. Dans ma manière à moi de faire rebondir les mots et les sons. Donc ça devenait effectivement une glose lyrique, de fait. Il y avait bien cet aspect-là. En même temps avec quelque chose qui était évidemment sonore, puisque tous les sons du poème de Rimbaud se donnent à entendre, mais expansés comme le polystyrène. Donc quelque chose avec, qui prend de l'espace, qui prend, si on appuie sur une bombe de polystyrène expansée, ça jaillit et ça remplit, et ça remplit l'espace.
Comme ça, est-ce que tu as un morceau de phrase en tête dont tu pourrais nous donner lecture, enfin de mémoire, qui exprime ce... Parce que tu dis syllabe par syllabe, c'est ça
oui.
qui est... Exercice difficile.
Oui, parce que là, tout attraque, je sens que je vais complètement bloquer. Alors, moi, je me souviens, quand c'est le passage du trou de verdure, je passe un long moment, mais c'est pas tout de suite, c'était le début du poème qui devrait me revenir et pour que ce soit plus clair. Mais bon, alors on va rester sur ce vers-là, c'est un trou de verdure. Alors, sur ce passage-là, sur le trou de verdure, ben, par exemple, je fais entendre trou vert, un trou vert tendre. Hein. Bon, alors à la fois, évidemment, je fais entendre le trou, ce qui troue le poème, mais ce qui troue le corps aussi. Bon, mais ça, c'est déjà évidemment dans le texte de Rimbaud. Mais je fais aussi entendre le mot trou vert, parce que Rimbaud était jeune, un trou vert tendre. Enfin, donc je prends ces deux sons, trou et vert, et je les envoie dans beaucoup de sens pour faire entendre tous les sens possibles de ce trou vert-là. Hein, l'adjectif vert est très présent chez Rimbaud.
D'accord.
Par exemple, bon, enfin, voilà, donc on le retrouve dans beaucoup, beaucoup de poèmes de Rimbaud. Alors, ce vers-là, qu'est-ce que et en plus, évidemment, il fait homophonie avec le vers, V-E-R-S. Bon, donc il y a plein de choses à faire apparaître dans les sons trou et vert.
D'accord. Bon, l'exemple est démonstratif.
Bon, alors tant mieux.
Donc on a compris.
Je regrette de
poème
pas
expansé.
Avoir le premier vers de
bien
Rimbaud.
Comme ça.
Bon. Donc voilà, poème expansé. Donc je me suis dit. Quand j'ai fait ça pour Le Dormeur du Val, je me suis dit, ben oui, voilà, je vais appeler ça des poèmes expansés. Et puis, je vais prendre des textes très connus, qu'au fond, on connaît tous un peu par cœur, mais pas bien, bien sûr, et qui finissent, à cause du par cœur, par perdre leur sens. C'est toujours c'est la double tranchant, le par cœur, c'est formidable, il faut pas perdre ça à mon avis dans les écoles, et puis pas seulement en poésie d'ailleurs, on sait bien pour les verbes forts en anglais ou compter en mathématiques, enfin voilà, il faut pas du tout perdre de vue le par cœur, et en même temps sur des objets comme ça esthétiques comme un poème, un objet intellectuel difficile, le par cœur vient gaucher le sens, vient le perdre. Bon, dans une litanie comme ça où on ne sait plus bien ce qu'on dit. Donc c'était une revisite des textes en même temps, cette idée de poèmes expansés. Hein. Une relecture, une revisite, enfin, etc. Donc j'ai fait ça pour Baudelaire, pour L'Ennemi. Hein. Ensuite je suis allée à des textes que j'avais envie de relire moi et dont au fond j'avais envie de donner à entendre ma relecture. Voilà. Donc j'ai fait ça pour L'Ennemi de Baudelaire. J'avais été invitée par la conservatrice de l'époque, la jeune conservatrice, je suis furieuse, qui est devenue maintenant la conservatrice du musée de Valenciennes. Voilà, alors qui a fait de très belles expositions à Arras. Donc cette jeune femme, qui était toute jeune conservatrice, montait une rétrospective de Mireille Desideri. et sachant que nous avions fait des livres-objets ensemble, m'avait demandé de faire une performance, voilà, bon, performance poétique, pour la clôture de son exposition. Or, donc très en amont, six à huit mois avant l'événement, bon. Or, je savais que là, Mireille Desideri allait présenter 20 ans de son travail dans une salle qui est quand même qui est grande. Et donc, il y aurait un parcours dans sa peinture. Et que particulièrement, elle offrait au public à voir le travail qu'elle avait mené sur les silex. Donc, silex peint avec des fragments de corps, silex peint sur des toiles. Et ce regroupement de silex qu'elle a peint en rouge, d'un drôle de rouge. Donc, j'avais tout ça en tête. Et au fond, je ne savais pas quoi faire. Mais en tout cas, je ne voulais pas lire les petits poèmes avec lesquels nous avions fait des livres-objets. Je trouvais que ça ne correspondait pas à l'idée d'une rétrospective et d'un parcours dans le temps d'un artiste qui présente son rapport au temps. Et un matin, je fais confiance à mes rêves, bien sûr. Un matin, je me suis réveillée avec le mot poussé, le mot et l'idée d'un enfant comme ça qui chemine avec des cailloux. Évidemment, ça m'a paru étrange, mais je me suis dit qu'il fallait faire confiance et qu'il fallait que j'aille relire Petit Poussé. Et j'ai eu beaucoup de mal, parce qu'il y a 5-6 ans, Charles Perrault n'avait pas encore été au programme du baccalauréat, ni des classes, ni en fac. Et on trouvait qu'il a fallu que je commande les contes de Charles Perrault en librairie. On ne les trouvait pas il y a 5-6 ans. Ce qu'on trouvait, c'était des versions édulcorées de livres Cucu la praline.
Voilà, quand on prend des livres, les contes de Perrault, c'est pas forcément.
Voilà.
Ce ne sont pas forcément recueils des textes de Perrault.
C'est triste, mais c'est comme ça. Ça a été méchamment déjà édulcoré au 18e. On a trouvé que les contes en vers, c'était chiant à lire. Enfin, ça devenait chiant à lire, finalement. Enfin, c'est pas bien de dire les choses comme ça, mais ça se perdait déjà de lire du vers, hein, déjà au 18e. Ça demandait déjà un effort. Donc, tous les contes en vers de Perrault, parce que une bonne part des contes de Perrault sont écrits en vers, eh bien, les contes en vers ont été réécrits en prose. Mais bien sûr, c'est devenu autre chose en passant par la prose, qui n'était pas de la main de Perrault, bien sûr, qui était mort depuis belle lurette. Et on a appelé ça les contes de Perrault. Et il y avait déjà plus de poésie. Allez, exit le vers.
D'accord. Alors justement, par exemple, Pousset, est-ce que Pousset c'est un conte en vers?
Pousset est en prose et il n'a pas été publié sous le nom de Charles Perrault. Alors en plus, c'est un corpus. Plus je me suis enfouie dans ce corpus, plus je me suis passionnée parce que j'ai découvert des choses quand même très étranges. Notamment Pousset. Il y a deux, trois contes dits de Charles Perrault qui ont été publiés dans des revues de précieuses. Ce qui déjà doit vous faire un peu clignoter, cher tumulte, des idées sur ces contes, enfin de se dire que si les précieuses publiaient dans leur revue ces textes-là, c'est qu'ils n'étaient pas faits pour les petits enfants et que probablement ils avaient un intérêt pour la condition féminine. Mmh. Bon, voilà. Et Pousset notamment est paru dans une revue de précieuses sous le nom de Pierre d'Arnoncourt. Pierre d'Arnoncourt, c'est pas Charles Perrault, je suis désolée. Hein. Et qui est Pierre d'Arnoncourt? Eh bien, c'est le dernier fils de Charles Perrault. Alors, c'est intéressant parce que Charles Perrault s'est retrouvé veuf comme Madame de Sévigné, très jeune père, à 24-25 ans. Et comme Madame de Sévigné, il a tenu à élever ses gamins. Bon, voilà, il y avait à l'époque une sorte d'émergence comme ça des questions de l'éducation. Enfin, c'est même plus qu'une sorte, c'est vraiment l'émergence de ça. Et un certain nombre de lettrés cultivés, enfin oui, et bourgeois ou nobles de l'époque, enfin, en tout cas qui gravitaient autour de la cour, ne souhaitaient pas que leurs enfants soient déposés dans des couvents et élevés par les moines ou les religieuses. Donc, Madame de Sévigné a sorti ses deux enfants de ce type d'établissement pour les élever elle-même, enfin avec des précepteurs qui leur ont appris le grec et le latin. Et Perrault a fait de même. Donc voilà, il y avait un mouvement de l'époque pour ça. Son dernier fils, parce que c'était comme ça à l'époque, n'héritait de rien. Le dernier enfant n'héritait de rien, même pas du nom du père. Donc voilà, il avait un nom familial, mais en tout cas pas le nom du père. Donc le dernier fils s'appelait Pierre d'Arnoncourt, et il fallait lui trouver une charge, parce que sinon il avait rien, il était dans la plus grande pauvreté, ce dernier fils. Et il semble que ce jeune homme avait une plume, Et comme le père, il s'intéressait aux contes, et sans doute poussé par le père, en a écrit deux ou trois du lot. Enfin, en tout cas, on est sûr d'une seule chose, c'est que deux ou trois contes sont parus dans des revues de presse sous ce nom. Seulement, Pierre d'Arnoncourt a tué en duel, dans ces années-là, un jeune noble. Or, Louis XIV, après Henri IV et ceux qui ont suivi Henri IV, en avait absolument marre des duels qui faisaient disparaître les jeunes nobles par dizaines. Donc Louis XIV était en train de réprimer ça assez fort en mettant les jeunes gens en prison. Et Charles Perrault est allé plaider la cause de son fils auprès du roi. En collectant les contes signés Pierre d'Arnoncourt et en les déposant à la grande mademoiselle, qui était une jeune femme d'une vingtaine d'années, hein, c'était une nièce de Louis XIV qui tenait salon, c'est pas du tout une petite fille, la grande mademoiselle. Donc il dédie ce premier ensemble de contes signés Pierre d'Arnoncourt à la grande mademoiselle pour plaider la cause de son fils et lui dénicher une charge littéraire. Et puis, le fils, Louis XIV, n'en démord pas, il est furax, il envoie Pierre d'Arnoncourt à la guerre, et Pierre d'Arnoncourt n'en reviendra jamais. Mmh. Et exit de la mémoire Pierre d'Arnoncourt. Donc, quand Charles Perrault finit d'écrire ce qu'il a écrit et y adjoint ceux de Pierre d'Arnoncourt, il n'y a pas de nom. Il dit, c'est les contes de ma mère Loi, il y a pas. Et c'est ensuite à la republication qu'on fera apparaître Charles Perrault et qu'il n'y aura plus le nom de Pierre d'Arnoncourt. Bon, enfin, voilà.
Alors, donc, le Pousset, par exemple, est...
Alors, le petit Pousset, ça s'appelle comme ça chez Charles Perrault. Le petit Pousset, enfin, dans les contes de ma mère Loi, est paru donc, chez Les Précieuses sous le nom de Pierre d'Arnoncourt. Donc, il est tout à fait probable que ce soit de l'écriture du fils le plus jeune de Charles Perrault. Voilà. Mais pas Podane, précisément, probablement, il n'y a aucun doute sur les contes en vers, parce que Perrault, toute sa vie, a écrit en vers.
D'accord. Voilà. Donc, ce qui est le cas Podane, de...
d'ailleurs, a beaucoup plus d'humour, oui. L'écriture de Pousset est très jolie et très belle, mais Podane, on sent un métier de versificateur, un humour particulier, notamment scatologique, qui est vraiment un des traits de Charles Perrault. Dans tout ce qu'il a écrit, il y a une histoire de caca. Donc, l'âne qui chie de l'or, c'est vraiment papa. C'est papa Perrault, il n'y a pas de doute. Bon, enfin, je reviens à mon histoire. Je me plonge dans ce corpus. J'y découvre une langue très savoureuse, très proche de Molière, des préoccupations très proches de Molière. Je vois tout de suite bien que ce qui pouvait intéresser les précieuses dans toutes ces histoires-là. Je m'insurge contre l'édulcoration au fil des siècles de ce corpus. Et bon, il se trouve que je n'ai pas été la seule, puisque dans ces années-là, les contes de Perrault sont venus, donc, comme je le disais, au programme de terminale et en fac et même en cagne et en hypocagne. Donc voilà, il y a eu...
Là, les vrais textes.
Les vrais textes,
pas
bien
les
sûr.
Textes pas les édulcorés.
Voilà, pas l'édulcoration du 18e, ni celles qui ont suivi, encore plus fâcheuses, au 19e. Hein. Voilà. Donc je me suis dit, mais youpi, je la tiens ma lecture performance pour la rétrospective Mireille Desideri. Je réécris Pousset, j'en fais un poème expansé. Donc c'est devenu le poème du petit Pousset chez moi, et je l'ai donc expansé pas à pas. Après quoi, relisant tout ce corpus, je me suis tout de suite beaucoup plu dans le Podane en vers de Perrault, cette fois, pour son humour. Hein, il y a beaucoup d'humour dans le Podane, pour le sujet même, évidemment. Je suis une femme, j'ai été une fille. Cette histoire d'inceste qui peut aussi s'entendre comme le désir d'une fille pour son père. Il faut l'entendre dans les deux sens. D'ailleurs, c'est déjà comme ça dans le texte de Perrault. Voilà, vraiment, j'avais une très grande envie de réécrire ce texte. Donc tout de suite, je me suis dit, je réécrirai Podane après Pousset et aussi Barbe Bleue. Mais alors Barbe Bleue, nous y arrivons enfin. Là, il y a eu un peu, j'ai envie de dire, j'ai été un peu rapide, il y a un peu une méprise de ma part. J'avais en tête et vraiment dans les oreilles le château de Barbe Bleue de Béla Bartok. Donc j'ai survolé, quand je me suis immergée dans le corpus des contes de ma mère Loi, j'ai survolé le Barbe Bleue en le lisant à peine et vraiment en gardant un souvenir merveilleux, enfin en tout cas, merveilleux n'est pas le mot, mais frissonnant et formidable du Barbe Bleue de Béla Bartok, qui est composé à partir d'un poème d'un poète hongrois, et qui avait écrit d'abord ce poème. Je ne crois pas me tromper en disant que ça n'était pas d'abord un livret. C'est un poème. C'est Bartok qui en a fait un livret. Il était très ami avec ce poète. Et ce poète avait sans doute un lien d'admiration ou d'amour pour la femme de Béla Bartok. Il a écrit un poème sublime qui ne met en scène que deux personnages, un homme et une femme, et qui est dédié à l'épouse de Béla Bartok. Mmh. Et Bartok... donc ce poème est d'abord écrit, Bartok doit également trouver ce texte sublime puisqu'il en fera son opéra.
D'accord. Alors je reviens un petit peu en arrière, le poème expansé, on a bien compris. pour Perrault, ce sont des contes.
Oui, ce ne sont pas des poèmes.
Voilà. Mais... donc est-ce que là il y a le problème de l'histoire en tant que telle ? Est-ce qu'il y a, est-ce que l'histoire elle-même est réécrite ? Est-ce que c'est...
Cher Tumulte, dans un premier temps, pour moi, ça résonnait de la même manière que pour Le Dormeur du Val. C'est-à-dire, au fond, des histoires qu'on connaît tous. On connaît tous Poussée, Peau-d'âne, Barbe Bleue. Mais au fond, à force de les connaître, et surtout de les mal connaître à cause des versions édulcorées, on les a nous-mêmes édulcorées. Déjà, on n'a pas besoin des édulcorations du 18e, du 19e et du 20e. Au fond, on ne relit pas Perrault parce qu'on pense que c'est écrit pour des petits-enfants, qu'on est tous adultes, on n'a pas besoin de ça. Et puis finalement, on ne sait plus. Oui, c'est l'histoire d'un petit garçon qui sème ses cailloux, oui, d'accord. À ce moment-là, à ce rythme-là, on chinte beaucoup de choses et on peut aussi résumer beaucoup Proust. Bon. Certes, c'est plus court que Proust. Mais en tout cas, voilà, ça procédait pour moi de la même chose. Tout le monde connaît Poussée et plus personne ne le lit. À force de le connaître par cœur, on ne sait plus de quoi il retourne. Voilà. Donc ça convenait très bien, je trouve, au texte que je vise par ces poèmes expansés.
Alors pour Barbe Bleue, quand même problème. Si tu cites le livret de Béla Bartok, c'est que aussi il y a une histoire qui est où les personnages ne sont pas vus de la même manière.
Absolument. Donc j'ai tout de suite décidé que je réécrirais ces trois contes-là et pas plus, bien sûr. Enfin, bien sûr, j'ai pas envie d'en réécrire plus, donc ça sera trois. Donc, il y a eu le travail du poème du Petit Poussé, il y a eu le travail que vous connaissez, chers auditeurs de Tumulte, sur Peau-d'âne. Et puis, depuis le début de l'été, je me suis mise en chemin pour Barbe Bleue. Et là, dans un premier temps, comme une déception ou une franche surprise, mais un peu embêtée, c'est que le Barbe Bleue de Perrault est très éloigné du château de Barbe Bleue de Béla Bartok et de ce poète hongrois qui a effectivement écrit un texte sublime. Donc je suis allée relire le livret de l'opéra de Béla Bartok et j'ai donc bien compris ce qui m'avait agrippé dans ce souvenir que j'avais de ce texte-là et pas de celui de Perrault. Ce qui m'avait agrippé, c'était l'idée qu'au fond, Poussée parle de quelque chose qui concerne tous les enfants, qui est cette perte qu'on a à perdre ses parents. Moi, à chaque fois, je renverse quand même un peu le propos qui entend dans les deux sens. Certes, les parents perdent les enfants, mais chaque enfant a à perdre ses parents. Mmh. C'est dédoublé chez Poussée. On a les gentils parents, pas si gentils, mais très pauvres, et on a les très méchants, l'ogre et l'ogresse. Mais c'est, voilà. Peau-d'âne, de même, cet inceste, fantasme du désir pour le père et inceste du père, voilà. Donc ça, c'est la condition de la fille, de toutes les filles, qui en passent toutes par ce désir au père. Désir du père, à entendre des deux manières. Et au fond, Barbe Bleue, pour moi, disait quelque chose du couple, de quelque chose qui est au cœur du couple. Et là, je me suis trompée. Je pense que c'est vrai dans le Barbe Bleue de ce poète hongrois. Je pense que c'est beaucoup moins vrai. C'est vraiment beaucoup moins vrai dans le Barbe Bleue de Perrault. Mais au fond, cette question-là, de ce qui fait... une des questions de ce qui est au cœur d'un couple et de ce qu'il n'y a pas trop à savoir et pas à exiger tout savoir de l'autre, c'est comme ça que j'avais retenu, c'est ce qui m'a fait réécrire mes lions l'année dernière. Mmh. Et si vous vous rappelez un peu le tour que prend ce conte, bien, je crois ne pas avoir tout lu pour laisser un peu de suspense au public qui viendrait aux représentations. Eh bien, voilà, cette question-là, au fond, je l'ai travaillée l'année dernière en réécrivant en vers ce conte médiéval. Bon, donc je ne suis pas en manque sur cette question-là. Du coup, il faut que je prenne à bras-le-corps le texte de Perrault et c'est lui que je réécris de toute façon. Parce que il faut rester, je reste dans ma ligne. J'ai réécrit pas à pas Petit Poussé, j'ai réécrit pas à pas Podane, je vais réécrire et je suis en train de réécrire pas à pas Barbe Bleue de Perrault et non de Béla Bartok.
Alors, quelle grosse différence entre les deux versions. Et puis bon... parce que c'est un petit peu d'actualité. On a pu voir la version filmée, téléfilmée, je ne sais pas comment on peut dire, de Breillat, Catherine Breillat.
Oui, alors ça tombait très bien. Je trouve qu'Arte a fait une très jolie proposition à Catherine Breillat, qui l'a fort bien relevée. Bon, même si on peut trouver que la fin est un peu brusquée, il y a quand même de très belles choses.
Ramassée, pour le coup.
Oui, c'est comme ça, pas du tout expansée. Ouais. Bon, alors, je trouve qu'elle, elle a un peu, d'abord, c'est une réécriture libre, hein, plus libre que ce que je vais faire moi pour Perrault, pour mes poèmes expansés. Je trouve que, je ne sais pas si elle serait d'accord, mais pour moi, résonne dans ce qu'elle a proposé, à la fois, et beaucoup, Perrault, mais aussi finalement quelque chose qui est dans l'épure hein, du poète hongrois. Donc dans l'épure du poète hongrois, on n'a pas du tout, on a juste une évocation de la mère et de la famille que laisse, d'abord elle est nommée, l'épouse, elle s'appelle Judith, rien de ça chez Perrault, le seul personnage nommé est Anne, la sœur. Aucun personnage n'est nommé, surnommé Barbe Bleue, mais nommée personne sauf la sœur Anne. Donc, dans le Barbe Bleue de ce poète hongrois, dont je risque d'écorcher le nom, donc je ne le dis pas, Judith est nommée, enfin l'épouse est nommée. Et tout le texte est une avancée de porte en porte dans le château. Donc, c'est un noble, là, chez ce poète hongrois. On a un noble qui est très épris de sa femme et qui fait tout ce qu'il peut pour la retenir, pour qu'elle n'ouvre pas toutes les portes de sa vie intime. Or, elle, prise par la tragédie qui suinte des murs du château, qui est tout noir et qui suinte de larmes, pousse les portes l'une après l'autre jusqu'à la dernière. Donc, on a une progression. Dans une pièce, on a des instruments de torture. Dans une autre, on a... Enfin, voilà. Et à la fin, on a les corps morts. Donc, on situe un poème très noir, très d'un érotisme tourné vers la mort. Mmh. Hein. Voilà. Donc voilà, mais une épure en même temps, et avec cet homme qui essaie de la retenir, cet homme qu'on sent très aimant et qui ne veut pas l'amener dans ce chemin-là. Mais elle, Judith, est fascinée et prise comme dans une valse mortelle. Mmh. Voilà. Ça, c'est du côté de Bartok. Hein.
D'accord. On retrouve un peu dans...
Tandis qu'on le retrouve chez Catherine Breillat, voilà. Ça. Je trouve que dans cette relation ambiguë qu'elle a avec cet homme au corps presque de mère, hein, un corps gros, presque imberbe quand on le voit torse nu. Mmh. Puis il a un drôle... c'est vrai, il a un corps assez curieux, un visage assez curieux. Il est tout à fait intéressant hein, comme acteur. Mais il y a une relation trouble comme ça autour de ce corps. Et en même temps, lui, on sent qu'il tient à cette jeune femme. Il ne cherche pas à la piéger. Mmh. Chez Perrault, c'est un homme qui piège. C'est un homme qui crée le piège en disant « Vous allez partout où vous voulez, sauf là ». Surtout, cette clé-là, vous ne vous en servez pas. Il est évident que tout le monde va ouvrir la porte.
C'est une
invitation à l'ouvrir. Donc cet homme, pour moi, crée les conditions du passage à l'acte. Mm-hmm. Du passage à l'acte dont il jouit. Voilà. Donc on a vraiment affaire, pour moi, dans Perrault, au premier meurtrier pervers. Meurtrier, comment dit-on là ? Les tueurs en série. Voilà.
Les serial killers.
Voilà. On a le premier serial killer de l'histoire littéraire, pervers. Mmh. Voilà, je pense que tous les tueurs en série ne sont pas forcément pervers. Là, on a vraiment un pervers.
D'accord. Et donc, c'est...
Pour moi, il préfigure Sade. Seulement, ça n'est pas un noble. Voilà, alors ça c'était
chez Perrault, donc c'est pas un.
Et non, ça aussi, ça a été une surprise chez moi.
Pourtant, il y a le symbole du château,
ah, ben
les
voilà.
portes.
Ben, il y a le symbole, les portes, c'est pas forcément château. Il y a la tour. Les portes sont beaucoup plus chez Béla Bartok que chez. Il y a juste, oui, il y a les clés, mais il y a la porte qu'il faut pas ouvrir. Bon, non, c'est une vaste demeure. Il y a beaucoup de portes, il y a des clés. Il est très riche, mais alors vraiment, Perrault insiste sur la différence de conditions. Alors bien sûr, il faut lire le texte. Tranquillement, mais c'est ça, c'est que ce sont des textes, voilà, là encore, qu'on a eu tendance à lire par-dessus la gambette, quoi. Mmh. Donc il faut lire ça pas à pas, et quand on lit ça pas à pas, c'est très clair. C'est un roturier, Barbe Bleue, et qui se paye une jeune noble pauvre. Voilà. Et ça, c'est intéressant. Et c'est ça aussi qui intéressait les précieuses. C'est la condition de la fille noble qui, à la même époque, Madame de Maintenon, elle crée une école des filles nobles ruinées. Mmh. C'est vraiment une préoccupation de l'époque. Toutes ces filles nobles qui sont à la merci du premier bourgeois venu. Mais encore, quand c'est un bourgeois sympa, quoi. Mais quand c'est Barbe Bleue, effectivement, c'est dramatique. Et c'est le contexte, vraiment, de la première page de Barbe Bleue. C'est très... Mais voilà. Alors, on est un peu... On se laisse un peu attirer du côté du noble à cause de la tour finale. Mmh. Parce qu'à la toute fin, l'épouse de Barbe Bleue court dans la tour à la recherche de sa sœur et monte, Anne, et dis-moi si tu ne vois rien venir. Alors... Bon, c'est aussi tout l'intérêt de ce texte, c'est que précisément, il n'est pas univoque, même si, jusqu'à la fin, Perrault insiste bien sur ce tableau sociologique. Un roturier qui épouse une jeune fille noble, ruinée. Et ça, Catherine Breillat le reprend très bien. Mmh. Mais elle ne fait pas forcément de Barbe Bleue un roturier. Même elle en fait un noble ouvertement, puisque ce beau château, qui est-ce qui est là et il y a un intendant qu'elle croise dans le film de Catherine Breillat qui dit « Ah, ben, c'est le seigneur Barbe Bleue, il veut se remarier, etc. Mmh. » hein, voilà. Alors, ça, c'est... Ben, moi, quand j'ai commencé à réécrire Barbe Bleue, j'en faisais un gentilhomme. Et c'est en relisant, j'ai commencé à avoir des doutes. Dans mon papa, j'ai dit « Oh là, je me trompe !» Et en allant lire les théoriciens contemporains qui me mettent bien en garde de ça. Voilà, donc c'est l'intérêt aussi de lire quand on réécrit, de ne pas se contenter de ses propres yeux.
Alors tu parlais tout à l'heure, tu as employé le terme de poème noir. Est-ce qu'il y a par exemple dans Perrault le sentiment de suspense?
Ah oui.
Que va-t-il
tout
la
à
fin,
fait.
Le dénouement.
Tout à fait. Ah,
est-ce que est-ce que ça aussi c'est nouveau dans le.
Oui, tout à fait. Ah oui, oui, non. Ce conte est très court. Hein. Il fait 5-6 pages. C'est vraiment extrêmement court. Mais on peut dire qu'il est très novateur sur bien des plans. Hein. Mmh. D'abord, ce qui est le trait de Perrault qu'on trouve beaucoup moins chez les frères Grimm, c'est le réalisme qui est chez Perrault, aussi bien chez Poussée que là. Hein. Justement, ce tableau sociologique très clair. On n'est pas dans le merveilleux, quoi. Mmh. Hein, on n'est pas du tout dans le merveilleux. On est dans une femme noble qui a perdu, qui est veuve, et il faut qu'elle place ses filles. Et on a un type riche. Certes, c'est très emmerdant parce qu'on ne sait pas ce qu'il a fait de ses précédentes femmes. Mais enfin, il a de l'argent, quoi. Mmh. Voilà.
Ah. Alors, Barbe Bleue, je ne sais pas si tu l'as dit, prose ou vers
oui,
le
alors
texte origine.
Il est en prose.
Il est en prose,
il est en prose.
Et est-ce que là, il y a aussi...
Mais moi, en vers. Hein, chez moi, moi, je n'écris qu'en vers pour l'instant.
D'accord. Et est-ce qu'il y a dans le texte en prose des éléments sonores de...
Non, non, pas spécialement. Oh, oui, bien sûr, si je vous le lis, il y a forcément du son.
Vas-y.
Alors, on ne va pas lire les estouets, hein, parce que sinon on ne va pas s'en sortir. Il était une fois un homme qui avait de belles maisons à la ville et à la campagne, de la vaisselle d'or et d'argent, des meubles en broderie, c'était la grande mode à l'époque, les meubles en broderie, j'ai passé du temps à me demander ce que c'était que les meubles en broderie, c'était des meubles recouverts de broderie, et des carrosses tout dorés. Mais par malheur, cet homme avait la barbe bleue, cela le rendait si laid, si terrible, qu'il n'était ni femme ni fille qui ne s'enfuit de devant lui. Une de ses voisines, dame de qualité, avait deux filles parfaitement belles, Il lui en demanda une en mariage et lui laissa le choix de celle qu'elle voudrait lui donner. Elle n'en voulait point toutes deux et se le renvoyait l'une à l'autre, ne pouvant se résoudre à prendre un homme qui eut la barbe bleue. Ce qui les dégoûtait encore, c'est qu'il avait déjà épousé plusieurs femmes et qu'on ne savait ce que ces femmes étaient devenues. Mmh. Voilà, d'accord. Ça c'est le début.
Okay. Alors,
c'est le début de Perrault, bien sûr.
Là, il y a aussi cette histoire de barbe bleue. C'est, oui. C'est très intriguant, ça,
oui,
quand
oui,
même.
Oui, oui, bah oui.
Un homme avec la barbe bleue. C'est pas un surnom. Enfin, c'est devenu un surnom, mais sur une réalité.
Il
a la barbe bleue.
Oui, alors probablement, il avait la bleu corbeau, c'est-à-dire un noir qui tire sur le bleu. Hein. Mmh. Le plus probable, c'est que c'était ça. Hein. Enfin, c'était ça, de toute façon, il n'a pas existé. Mais peut-être qu'on appelait barbe bleue des gens qui avaient une barbe d'un noir absolument profond et qui avaient des reflets. Ça, c'est possible. Mais voilà, il y a des points qui achoppent à la glose chez Perrault encore. Barbe bleue, ça reste une énigme, ce surnom.
Alors, ton travail d'écriture, tu as déjà... Bon, tu as déjà bien réfléchi dessus.
Oui.
Est-ce que tu as déjà écrit ?
Alors, j'avais commencé, donc, si vous vous souvenez un peu du prologue, du petit prologue poétique de Poussé et de Podane. Il écrit à la manière du prologue poétique de Poussé et de Podane. Donc là, il n'est pas tout à fait... il n'embraye pas sur l'écriture de Perrault, ce prologue. Hein. C'est plutôt une façon pour moi de jeter sur la table les éléments qui vont être brassés après. Hein. Comme je jette des mots, c'est plutôt un peu comme ça que je fais, que j'avais fait pour Podane et que j'ai fait là. Aussi pour Poussé, bien sûr. Alors, je l'ai repris parce que dans cette première écriture, je disais qu'il était un gentilhomme. Donc, c'est une version biffée que je vais lire ce soir. Et puis... Troisième mardi de novembre, je donnerai à entendre la version probablement bon, en cours, mais pas loin d'être définitive. Il était une fois couteau, mariage. Il était une fois pire, goût, sang. Il était une fois. Il était une fois argent, mariage. Il était une fois coutelas, mari, pire, cœur, épouse. Il était une fois. Il était une fois un homme, gentilhomme, homme riche à la ville. Alors je vous rappelle que c'est fautif, il n'est pas gentilhomme. Je vous livre là mon premier, d'accord ? Voilà, c'est vraiment l'atelier d'écriture ce soir. Il était une fois un homme, gentilhomme, homme riche à la ville, à la campagne, vaisselle d'or, d'argent, coffre, carrosse, riche bijoux, d'or et d'argent. À la ville, à la campagne, il était une fois un noble. Et non. Il avait en tout maisons, nombreuses maisons, châteaux, équipages, de l'or, de l'argent, une barbe bleue. Il y avait en tout cet homme, une mère, deux filles, des portes, des clés, sept épouses, secrets. Il était une fois un noble, riche, très riche, qui avait au visage le poil bleu. Il était une fois un homme, un mari, un veuf, maintes fois veuf, des femmes, ces femmes, combien de femmes ? Il était une fois des biens, des femmes, bien des femmes, combien de femmes ? Il était maintes fois veuf, ce noble à la barbe étrange, étrangement bleu. Et bien voilà, ce début a été retravaillé. Vous l'entendrez le troisième mardi de novembre.
Za maným kam se schovávám, nevím kam. Ni já, ani sen, světlo, ani tma, má, ani tvá, ani bílá, ani černý, potom ani hned, tady, ani teď, ani tma, ani den, tady, ani tam, nemám, ani má. voda, ani prach, radost, ani strach, ani bílá, ani černý oheň, ani led, potom ani hned, ani tma, ani den málo, ani moc, den a ani noc, ani já, ani sen tady, ani tam, sama, ani sám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam, a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, ne, ne, nečekej, sama nevím kam, kam se schovávám, nevím kam, dávno jsme oba tam, a já dávno zpět, potom ani hned, nečekám, ne.
C'était le poème provisoire de Sylvie Neve. Rendez-vous en novembre, troisième tumulte de ce mois prochain.
Ani tma, ani den málo, ani moc, den a ani noc, ani já, ani jsem tady, ani tam, sama, ani sama, ani bílá, ani černý, dobrá, ani zlá, ty a ani já.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. 30 minutes de tumulte musical. John Zorn, extrait de l'album The Dreamers. Avec Marc Ribot à la guitare, Jamie Safto au clavier, Trevor Dunn à la basse, Joey Baron à la batterie, Ciro Battista aux percussions, John Zorn, sax alto. Thank you. John Zorn toujours, extrait de l'album The Big Gun Down, consacré aux musiques de Ennio Morricone, la bataille d'Alger. La bataille d'Alger, film de Gilles Pontecorvo, musique composée par Ennio Morricone, ici reprise par John Zorn. John Zorn tout de suite, toujours, pardon. Réinterprétation de Il était une fois dans l'Ouest, Ennio Morricone. Il était une fois la révolution.
Thank you.
on retrouve dans un instant la musique de Ennio Morricone réinterprétée par John Zorn, juste après un autre extrait de musique de film, un film qu'on a pu revoir sur Arte, Mortelle randonnée, avec Michel Serrault et Isabelle Adjani, film de Michel Audiard, musique Carl Ablet.
same and they made him pay the price.
La ballade de Hank McCain composée par Ennio Morricone, réinterprétée par John Zorn avec Mike Patton au chant. Deuxième à la suite. À la suite, l'extrait de la musique Svegliati e Uccidi.
Tumultueuse sur Radio PFM avec ce quartet de choc choisi par John Zorn pour la réinterprétation de cette composition de Ennio Morricone. On a pu entendre Mark Ribot, Derek Bailey au guitare, Trevor Dunn à la basse et Joey Barron à la batterie. Fat Jam en concert, Archie Shepp saxophone, Napoleon Maddox, rap et beatbox, Oliver Lake, saxophone, Joey Fonda, double basse, Amit Drake à la batterie et Coach Emea Gastelum, sax.
Checking out the scene at Racing 13. Brothers on the corner, steady making a green. If you want it, you can get it, do whatever you need. From crack to smack, from weed to speed. Lyrics heavy on the social if you're checking the vocal. This ill is universal, right? Surpassing the local. Cats scrambling the gutter for supply and demand. Look outside the windows, he out of corner is ran. Kids out selling it, keeping the fiends choking. Maybe out huffing and puffing and talking. You need to know, it's scaring you. This is the illest politic that's running America. It goes cold. Cocaine business controls America. Ganja business controls America. Illegal business controls America. 'Cause George Bush controlled America. Now the oil business controls America. Gun business controls America. War business controls America. 'Cause George Bush fucked up America. I do it for you.
Now check it. Every day there's a brand new child. Every day shoes are crafted in a brand new style. And if you keep the block hot, you got some shoes in a pile. And a list of plants that's been buying for a while. So every material item equals a junkie satisfied. You're rocking ice on the wrist and chrome on the ride. You committing a crime and they committing suicide. You didn't fly the dope in, but it's not justified. And it's not hard to figure out why our reverence died. When America caught us niggas and spit in our eyes. Plus we broke so the average laws don't apply. Half the junkies know and that's why. The cocaine business controls America. Ganja business controls America. Illegal business controls America. Cause George Bush controlled America. Now the oil business controls America. Gun business controls America. War business controls America. Cause George Bush fucked up America.
Ainsi que se termine ce magazine Tumult. C'est tous les mardis de 20h à 21h30, rediffusion le mercredi à 15h et à 18h30 à la semaine prochaine. Salut !